Alors aujourd'hui, je vais parler des preuves interactives. Voici quelques références des ouvrages très, très bien sur la question. L'historique des preuves interactives provient essentiellement de la cryptographie dans les années 80-90 et aussi des travaux sur la vérification des programmes, correction des programmes. Donc ça, c'est un petit peu l'historique. Aujourd'hui, je vais parler de deux choses essentiellement, les preuves à divulgation nulle et puis un peu de PCP aussi. C'est deux très grands sujets, on pourrait passer tout un semestre sur chacun. Donc je vais essayer de faire le mieux de ce que je peux pour vous dire un petit peu une histoire de ce qui se passe. Mais peut-être ce qu'on va changer, ce qui va peut-être changer un peu, c'est que si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. J'aimerais faire ça un peu de façon interactive. Et je vais vous convaincre pourquoi c'est beaucoup mieux de faire ça de façon interactive. Alors, quelques rappels qui sans doute sont familiers de beaucoup d'entre vous. Donc, la classe P, donc on considère des langages. Donc, on a un alphabet, par exemple 0-1. Et un langage, L, c'est un ensemble de mots. Un mot, c'est une suite de symboles, 0-1. Alors souvent, ces langages sont infinis. Et la question fondamentale, c'est de savoir, étant donné un mot X, on veut savoir s'il est dans le langage ou pas, oui ou non. Alors, on écrit un algorithme qui va nous dire 1 ou 0. 1, c'est oui, il est, et X est dans L, et 0, non, il n'y est pas. Et la classe P, c'est donc l'ensemble des langages qu'on peut reconnaître en temps polynomial. Donc, cet algorithme va tourner en temps qui est un polynôme de la longueur du mot. D'accord ? C'est le concept fondamental. L'autre classe fondamentale, c'est NP, et c'est un peu différent. Il s'agit qu'un mot est dans le langage si et seulement si il existe un certificat, on va appeler ça une preuve, alors c'est Y, s'il existe Y, tel qu'un algorithme polynomial en X, dans la taille de X, dans la taille du mot, retourne 1, donc vous dit effectivement X est dans L, ou alors 0, le cas échéant. Et l'algorithme tourne en temps polynomial. C'est très important, ça. D'accord ? Donc voilà, c'est P et NP. La grande question, la plus grande question théorique en informatique, c'est de savoir si ces deux classes sont égales. Le consensus, c'est qu'elles ne le sont pas, mais personne n'a aucune idée. Si vous prouvez ça, vous aurez 1 million de dollars de la Fondation Clay. D'ailleurs, vous aurez peut-être 7 millions de dollars, parce que si P est égal à NP, sans doute, vous pouvez prouver les 6 autres théorèmes de la Fondation assez facilement. Donc, les enjeux sont assez importants. On va appeler ça une preuve, et je vais expliquer pourquoi le mot preuve est le mot correct. Une autre façon de définir NP, enfin, je vais répéter la même chose, mais plus intuitive peut-être, c'est de la façon suivante. Si le mot est dans le langage, il existe une preuve que vous pouvez vérifier en temps polynomial. Et comme par exemple une preuve de mathématiques. S'il n'y est pas, il n'y a pas de preuve. D'accord ? Donc en logique, c'est la différence qu'on a entre completeness, la complétude, et soundness, la cohérence, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc cette espèce de dichotomie entre l'existence d'une preuve qui nous dit que quelque chose est vrai. Alors, je vais donner un exemple. Vous avez un graphe. La question, c'est de savoir si on peut le colorier avec trois couleurs. Alors, colorier, je vous rappelle ce que ça veut dire. On va colorier tous les sommets avec trois couleurs, bleu, rouge et vert. Et on veut s'assurer que toutes les arêtes sont bichromatiques. Vous n'avez pas la même couleur des deux côtés. D'accord ? Ça, c'est la condition essentielle. Alors, certains graphes, on peut. Certains graphes, on ne peut pas. Et on veut savoir oui ou non. Ce graphe est trois couleurs. On peut le colorier avec trois couleurs, donc bon, voilà, je vous le montre. Et certains, bien sûr, on ne peut pas. Alors la question, c'est de savoir ça. Donc c'est un problème qui, de toute évidence, est dans NP, parce que je peux vous le prouver, je vous donne le coloriage, et en temps polynomial, même en temps linéaire, dans la taille du graphe, vous pouvez vérifier que ce coloriage marche en allant examiner chaque arête et de s'assurer que les couleurs sont différentes. D'accord ? Donc c'est de toute évidence dans NP. Et la preuve, c'est le coloriage. Donc ça, c'est la preuve. D'accord ? C'est la preuve de cette chose-là. De plus, ça, c'est un problème qui est NP complet, donc de tous les langages qui sont dans NP, donc il y a tous ces langages-là qui sont dans NP, il y en a certains qui sont les plus difficiles, on dit qu'ils sont complets, et la signification, c'est que si vous savez résoudre ces problèmes-là en un certain temps, eh bien, vous pouvez résoudre tous les problèmes dans la classe NP dans le même temps à un facteur polynomial près. D'accord ? Donc, à un facteur polynomial près, vous pouvez utiliser votre solution, par exemple, du problème de coloriage pour résoudre n'importe quel problème dans la classe NP. D'accord ? Donc, c'est en ce sens-là où on dit qu'ils sont complets. Donc, ça, on ne sait pas faire en temps polynomial. On ne sait pas trouver les couleurs. Enfin, si P est égal à NP, on saura un jour peut-être, mais on pense que ce n'est pas possible. D'accord ? Mais par contre, on sait vérifier. Une fois qu'on a une preuve, c'est facile pour vous de vérifier. Alors, ça, c'est une preuve traditionnelle. Et je veux parler d'une preuve traditionnelle à quelques petits problèmes, et je vais parler de cela. D'abord, une preuve traditionnelle, c'est un monologue. Alors, on va dire que c'est moi qui vous prouve. Je suis le prouveur et vous êtes le vérificateur. C'est un monologue. Je vous lis ma preuve, je vous donne ma preuve, vous la regardez, mais c'est à sens unique. D'accord ? C'est une preuve traditionnelle. En plus, c'est déterministe. Il n'y a pas d'aléa dans une preuve. On ne va pas se mettre à jeter des pièces de monnaie et puis voir si c'est pile ou face. D'accord ? Ça, c'est une preuve classique. Les preuves interactives, elles vont être différentes. D'abord, on va avoir un dialogue, et d'un autre côté, elles vont être probabilistes. On va avoir de l'aléa. Donc, deux grandes différences. La première différence est... Alors, pourquoi, avant de se lancer là-dedans, et pourquoi, quel est l'avantage de changer les règles du jeu ? Le premier changement, je pense qu'il est très intuitif. La raison pour laquelle il y a des cours, il y a des professeurs, et il n'y a pas que des livres... Parce que dans les livres, un livre, c'est un monologue. Vous lisez, puis voilà. Mais dans les cours, vous pouvez poser des questions. Et c'est bien connu qu'on comprend quelque chose plus vite, plus rapidement, si on peut poser des questions et qu'on a des réponses. D'accord ? Donc, l'interaction, il semble, va nous aider à faciliter l'échange d'une preuve, vous convaincre de quelque chose. Ça, c'est une intuition. Et cette intuition, on va la justifier. Le recours à l'aléa est plus subtil, parce que généralement, dans les cours, dans les écoles, c'est interactif peut-être, mais les gens rarement posent des questions aléatoires. Ils disent bah, « Attendez, bah, je sors pile ou face. Ah oui, alors dans ce cas-là, je voudrais poser la question suivante. » Et pourtant, c'est fondamental. Alors on va se rendre compte pourquoi c'est fondamental, ça change tout. L'intuition est un petit peu difficile, mais enfin, s'il y a des physiciens dans l'auditoire, c'est la même intuition que celle qui, en physique, nous dit que le principe derrière les mathématiques derrière le principe d'incertitude de Heisenberg en physique quantique, c'est le suivant. C'est que si vous avez un signal et sa transformée de Fourier, les deux signaux ne peuvent pas être creux en même temps. C'est-à-dire que si un signal est plat sauf une impulsion, l'autre ne peut pas être identique. Enfin, pas identique, je veux dire. L'autre ne peut pas aussi être plat avec une impulsion. D'accord ? Et c'est la même raison. C'est l'aléa va délocaliser. Le problème dans une preuve, c'est un signal creux. Un signal qui est correct partout et il y a une erreur. Très local. L'aléa va jouer le rôle de ces paires en physique quantique où ça va, dans certains sens, nous prendre la transformée de Fourier pour répandre l'erreur partout. D'accord ? Ça va jouer un rôle essentiel dans la notion de preuve. D'accord ? Bon, ça, c'est des intuitions. Passons à la réalité. Donc, on va jouer au jeu suivant. Je suis à droite et vous êtes à gauche. Je vais être le prouveur. C'est moi qui vais vous prouver des choses. Et vous allez vérifier. Donc, nous sommes dans un monde où on va avoir un dialogue sous forme de questions-réponses. Moi, je sais tout, donc je ne vais pas vous poser des questions, ça serait idiot. Ce n'est pas la peine, je sais tout. Vous, vous ne savez pas grand-chose, alors vous allez me poser des questions. Bon, ça, il va y avoir des questions-réponses, d'accord ? Et vous allez avoir accès à des bits aléatoires qui vont être privés. Là, le côté privé n'est pas essentiel, mais on va supposer qu'ils sont privés, ça va simplifier. C'est-à-dire privé, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas les... Vous allez faire pile ou face, mais moi, je ne saurais pas si c'est pile ou si c'est face. C'est secret à vous. Ce n'est pas une condition indispensable, d'accord ? Mais ça va simplifier les choses. D'accord ? Voilà. Alors, le premier truc qui nous saisit, c'est qu'il y a deux asymétries inhérentes, intrinsèques à ce problème. Passons-les en revue. D'abord, il y a l'asymétrie du fait que je suis le prouveur et vous êtes le vérificateur. Et l'hypothèse qu'on fait, c'est que moi, je sais tout faire. Je suis tout puissant. Je peux résoudre n'importe quel problème. Mais vous, par contre, vous êtes limité par le calcul polynomial. Alors ça, c'est l'hypothèse de base. On suppose que P n'est pas égal à NP. Et donc, le monde est limité au calcul polynomial. Parce qu'en dehors de polynomial, eh bien, le calcul, on n'y a pas accès. Donc vous, vous êtes dans la situation où vous pouvez faire n'importe quel calcul polynomial sans mon aide. D'accord ? Donc si un jour on prouve qu'on peut colorier les graphes en temps polynomial, vous n'aurez plus besoin de moi en tant que prouveur. Vous pourrez simplement aller tout seul colorier vos graphes tant que vous voulez, si c'est polynomial. Le problème, c'est que si P n'est pas égal à NP, alors vous ne pouvez pas colorier le graphe en temps polynomial et vous avez besoin de moi. Car moi, je suis tout puissant, je peux tout faire, moi, instantanément. Donc, il y a la première asymétrie du fait que le prouveur et le vérificateur ne sont pas sur un rang d'égalité. D'accord ? Cette asymétrie, vous les voyez dans les bouquins de mathématiques. Quand vous lisez une prof de mathématiques, c'est évident que c'est asymétrique. C'est le livre sait plus que vous. C'est évident. S'il savait autant que vous, ça ne serait pas la peine de lire le bouquin. Donc, cette asymétrie, je pense, n'est pas surprenante. Il y en a une autre asymétrie qu'il faut bien comprendre. C'est le fait que co-P, c'est le complément de P, c'est une classe que j'ai inventée, elle est tellement idiote qu'on n'en parle jamais, mais le complément des langages dans P ben, sont aussi dans P. Et c'est évident. Si vous savez faire prouver que X est dans L en temps polynomial, ben, vous savez aussi prouver que X prime n'est pas dans L. Si vous prenez un X prime qui n'est pas dans L, ben, vous savez aussi faire ça. Donc, si vous savez faire l'un, vous savez faire l'autre. Si vous savez reconnaître L polynomial, vous savez aussi reconnaître le complément de L, pour des raisons complètement triviales. Par contre, NP n'est pas symétrique. Ça, c'est important de comprendre ça. Que de savoir dire qu'un graphe peut être coloriable n'est pas la même chose de savoir dire qu'un graphe ne l'est pas. D'accord ? Et on peut s'en rendre compte de tas de façons assez simples. Je peux vous convaincre qu'un graphe est coloriable en vous montrant les couleurs. Je prends le graphe, je le colorie, je vous le montre. Et vous, vous vérifiez ça. Mais comment je vous convainc qu'il n'est pas coloriable ? Moi, je sais, je prends un graphe, il n'est pas coloriable en trois couleurs. Et je le sais parce que je suis tout puissant. Je suis le prouveur. Je sais tout. Mais comment je vous le convainc ? Et supposez que vous ne me croyez pas que je suis tout puissant. Si vous me croyez, évidemment, ça simplifie les choses. Vous partez et vous savez. Mais si vous n'avez pas confiance en moi, comment je vais vous convaincre que ce graphe... Je peux vous montrer on peut essayer tous les coloriages possibles. Je peux vous montrer une longue preuve qui a tous les coloriages possibles et vous allez vérifier qu'aucun ne marche. Mais elle ne marche pas, cette preuve. Pourquoi ? C'est une preuve, mais qui est de taille exponentielle. Mais vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas accès à l'exponentielle. Vous êtes limité par le temps polynomial. D'accord ? Donc, une preuve qui est de taille exponentielle n'existe pas pour vous. D'accord ? Alors, la question, c'est, y a-t-il une preuve de taille polynomiale qui vous prouve que ce graphe n'est pas coloriable ? Pas évident. D'accord ? Alors, si P n'est pas égal à NP, on pense que la réponse, c'est non, qu'il n'y en a pas. C'est un mystère, c'est un grand mystère. Comment je vous convainc, par exemple, qu'un circuit... Vous avez une fonction booléenne qui est définie d'une façon comme une autre, et j'ai un circuit. D'accord ? Et je vous dis que ce circuit calcule cette fonction. Comment vous allez vous en... Comment je peux vous en convaincre de ça ? Ben, je peux vous montrer le résultat du circuit sur toutes les entrées possibles. Alors, s'il y a n bits, c'est 2 puissance n. Alors, j'écris une longue table, mais ça aussi, c'est exponentiel. Y a-t-il un moyen de vous convaincre que ce circuit marche en temps polynomial ? Pas évident. C'est pas évident du tout. D'abord, c'est facile de voir que sans aléa, la réponse est non. Sans aléa, la réponse est non. La seule chance, c'est que si on a de l'aléa et si on a un dialogue, alors peut-être qu'on va y arriver. D'accord ? Ça, c'est un exercice facile de voir que sans aléa, la réponse est non. Comment je vais vous convaincre qu'un nombre est premier ? Si un nombre n'est pas premier, c'est facile de vous convaincre. C'est la multiplication de deux nombres. Mais s'il est premier, comment je vous en convainc qu'il est premier ? Si je vous donne une liste des candidats diviseurs, et on voit qu'il ne marche pas, mais le nombre de candidats diviseurs est exponentiel dans le nombre de bits du chiffre en question. Hein, donc la taille de l'input pour représenter un nombre, le nombre de diviseurs est exponentiel. Enfin, le nombre de diviseurs candidats est exponentiel. Donc c'est une preuve auquel vous n'avez pas accès. Comment faire ? Donc, vous voyez que NP est une classe très spéciale. NP est une classe... Bon, d'accord, on ne sait pas faire en temps polynomial, mais on sait vérifier très facilement. Tous ces problèmes-là, on ne sait même pas vérifier. C'est très différent, d'accord ? Alors, passons encore plus difficile, d'accord ? Alors, il y a un jeu qu'on appelle Node Chaos. C'est un jeu tout bête. Hein, vous pouvez jouer à ça dans le train, dans un avion avec un ami, si vous n'avez rien de mieux à faire. Vous prenez un graphe, et le premier joueur prend un sommet, l'enlève et enlève toutes les arêtes qui sont autour. Le deuxième joueur prend le graphe, prend un sommet, l'enlève et enlève toutes les arêtes qui sont autour. D'accord ? Et on fait ça ainsi de suite. Le premier qui arrive à enlever toutes les arêtes, à produire un graphe qui n'a plus d'arêtes, gagne. Bah, c'est un jeu tout bête. Comment je peux vous convaincre, par exemple, que sur un graphe donné, le premier joueur a une stratégie gagnante ? Il va y avoir des graphes où le premier joueur a une stratégie gagnante. Comment je peux vous convaincre de ça ? La preuve triviale, c'est d'essayer tous les jeux possibles. Mais c'est exponentiel, ça, c'est très long. Y a-t-il un moyen rapide ? D'accord ? Enfin, mon problème favori, le plus difficile de loin de tous, c'est celui-là. Supposons qu'il y ait des pianos dans cette salle, plein de pianos. Et la question, c'est la suivante, peut-on les sortir de la salle ? Oui ou non ? Alors, vous allez vous dire, si on les a rentrés dans la salle, on doit pouvoir les sortir. Non, car ce que vous ne savez pas, c'est que certains pianos ont été montés. Ils sont arrivés ici en pièces détachées, et on les a montés. Et vous n'avez pas le droit de les démonter pour les sortir. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut les sortir sans les démonter ? D'accord ? Alors il y a un résultat très, très joli en géométrie algorithmique, un très joli sujet que je recommande fortement, qui dit qu'il y a des exemples, qui dit que c'est un problème très difficile. Il est p-space complet. Il y a des exemples de n pianos où la réponse est oui, on peut les sortir, mais le nombre de manipulations minimum pour les sortir est exponentiel. Donc on fait sortir un piano, on en sort un autre, on le re-rentre, on ressort, on fait des tas de... On bouge tout ça pendant très longtemps. Le nombre de mouvements est exponentiel dans le nombre de pianos. Et c'est le nombre minimum. Mais la réponse est oui. Donc ce n'est pas une preuve, ça, parce que... Moi, je veux dire, si on peut, et voici pourquoi, voici les mouvements du piano. Prendre le piano 34, le bouger de 5 cm à droite et tout, bon, ça, c'est une preuve correcte. Mais vous avez accès qu'au temps polynomial. Donc, pour vous, ce n'est pas une preuve. D'accord ? Alors, comment je peux faire pour vous convaincre ? Alors, un résultat fantastique de Adi Shamir qui était ici il y a 2 semaines ou 3 semaines, c'est qu'en fait, il y a des preuves. Pour tous ces problèmes-là, je peux vous convaincre en temps polynomial que c'est vrai. D'accord ? Alors, je montre quand même que ces problèmes-là, ça c'est dans CoNP, ça c'est dans CoNP, ça c'est dans P, un des grands résultats de l'informatique théorique, qui, à mon avis, mérite beaucoup plus de gloire qu'il a reçue, qu'on peut, en temps polynomial déterministe, dire si un nombre est premier. C'est extrêmement brillant. Et ça, c'est des problèmes qui sont complets pour une machine de Turing en espace polynomial. D'accord ? Donc, c'est des problèmes fortement exponentiels. Et le résultat de Adi Shamir, un des résultats de Adi Shamir, donc Shamir, c'est le même Shamir qui est derrière RSA, hein, cryptographie, c'est que, eh bien, en fait, ces langages de preuves interactives, hein, où on peut échanger des dialogues. Bon, je n'ai pas défini vraiment rigoureusement, parce que ce n'est pas vraiment le sujet de mon cours, la classe IP, mais enfin, vous imaginez, vous connaissez l'input, hein, du problème, et vous me posez des questions, et moi, je vous réponds, oui ou non. Et pendant un temps polynomial, on va poser des questions, et ce que je veux, c'est qu'à la fin, vous connaissiez la réponse avec une probabilité 0,9999999, enfin, aussi proche de 1 qu'il est possible. D'accord ? Et donc, là, ce que Adi Shamir a prouvé, c'est que tous ces problèmes-là, où ce n'est pas du tout évident comment on peut vous convaincre, eh bien, en fait, on peut. D'accord ? Et donc, ça montre à quel point les preuves interactives sont bien plus puissantes que les preuves traditionnelles, qui sont des monologues. L'aléa et l'interactivité changent tout. Et je pense aussi de façon intuitive, parce que c'est pas évident de voir comment je peux vous convaincre que le piano puisse sortir si tous les moyens de le faire sont de taille exponentielle. D'accord ? Mais je ne veux pas parler de ça, de IP, je veux parler d'autre chose. Alors, une preuve traditionnelle, donc je répète, c'est un monologue, c'est déterministe, mais ça révèle plus dont on a besoin. Je veux dire quoi par ça ? À l'inverse d'une preuve à divulgation nulle, qui va être un dialogue, qui va être probabiliste et qui va révéler un seul bit. Alors, la motivation, c'est les mots de passe, par exemple. Je veux vous convaincre que j'ai un mot de passe, mais je ne veux pas vous montrer mon mot de passe. Motivation en cryptographie. Vous êtes daltonien, colorblind. Vous êtes daltonien et vous avez 2 chaussettes et je vous dis qu'elles ont des couleurs différentes. Je veux vous convaincre qu'elles ont des couleurs différentes. Mais vous ne savez pas, vous êtes daltonien. Comment on fait ? Eh bien, je me tourne et vous faites pile ou face. Pile, vous changez les chaussettes de chaque côté du pied. Face, vous ne faites rien. Je me retourne et je vous dis, vous avez changé. On recommence 10 fois. C'est très facile de faire le calcul que si vous avez que si les chaussettes ont des couleurs différentes, je vais pouvoir toujours répondre correctement. Mais si elles ont la même couleur, je vais me planter 1 fois sur 2, parce que je n'ai pas moyen de savoir si vous avez changé ou pas. D'accord ? Donc ça, c'est une preuve interactive qui est complètement sans divulgation, parce qu'elle ne vous apporte rien, sinon le fait que les couleurs sont différentes. D'accord ? Par exemple, vous ne savez pas les couleurs. Alors voici une preuve à divulgation nulle que ce graphe peut être colorié. Alors ça, c'est ma preuve. Je ne vous la montre pas. Hein, vous ne regardez pas ça. Je cache tout ça. D'accord ? Et vous prenez une arête au hasard. Et je vous la montre. Et vous voyez, ah, elle est bicolore, c'est bien. Elle est bichromatique, c'est bien. Si c'était vert-vert, vous m'aurez dit, ah, vous m'avez menti. On s'arrête. Vous êtes un tricheur. Enfin, je suis un tricheur. Et vous recommencez. Vous recommencez. Donc, si jamais je mens, il y a au moins une erreur qui est monochromatique. Il y a au moins une arête qui est monochromatique, par définition. Si je mens, si ce graphe n'est pas coloriable, il y a bien une arête qui a la même couleur de chaque côté. Et, bon, il faut supposer qu'il n'y a que 3 couleurs, mais ça, on peut s'en arranger. Vous avez une chance sur E, E étant le nombre d'arêtes, une chance sur eux de tomber dessus. Bon, c'est une petite chance, mais ce n'est pas négligeable. Donc si vous répétez ça 100 E fois, vous allez voir une chance extrêmement grande. La probabilité d'erreur va être 10 puissance moins 30. Va être extrêmement faible. D'accord ? Donc ça, c'est un moyen pour vous de vous convaincre que le graphe est coloriable. D'accord ? La question, c'est est-ce que c'est zero knowledge ? Eh bien non, ça ne l'est pas du tout. Est-ce que c'est la divulgation nulle ? Est-ce que vous avez appris quoi que ce soit ? Mais bien sûr que vous avez appris, parce que j'ai mon coloriage, et vous aurez... Et vous... Pendant 100 fois, vous m'avez demandé de découvrir les cachettes, et donc vous avez vu cette couleur, et cette couleur, et cette couleur, ça se trouve, vous avez vu à peu près tout le graphe entier. Donc c'est loin d'être la divulgation nulle, d'accord ? Donc ça ne marche pas du tout. Mais c'est très facile de réparer ça. Ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais faire... À chaque fois que vous me posez la question... Je vais prendre une permutation aléatoire des couleurs. Hein ? Donc, bleu va aller à vert, rouge va aller à bleu, et ça va être complètement aléatoire. À chaque fois, je refais ça de façon aléatoire. Donc, c'est le même processus qui va avoir la même probabilité de me prendre en flagrant délit, mais la différence, maintenant, elle est fondamentale. Elle est que vous n'apprenez rien sur le graphe, parce qu'à chaque fois, qu'est-ce que vous voyez ? Ben, à chaque fois, vous voyez deux couleurs prises aléatoires parmi trois. C'est tout. À chaque fois, comme j'ai fait une permutation aléatoire, ce que vous avez, c'est deux couleurs différentes. Si elles sont les mêmes, vous arrêtez tout de suite. On arrête, car j'ai triché. Sinon, vous avez deux couleurs différentes qui ont été prises au hasard parmi trois. Ça, on dit que c'est à divulgation nulle. Alors évidemment, il va falloir formaliser tout ça. Ça veut dire quoi, de dire que vous n'avez appris qu'un seul bit ? D'abord, la formulation en anglais, « zero knowledge », n'est pas véritablement correcte, parce que vous avez appris quelque chose. Vous avez appris que le graphe est coloriable. Donc vous avez appris un bit. Parce qu'il l'est ou il ne l'est pas. Donc vous avez appris un bit d'information. Vous n'avez rien appris d'autre. Ça veut dire quoi ? Après tout, vous avez appris des choses, vous avez vu des couleurs. Vous avez vu bleu-rouge, vert-bleu, vert-je... Bon. Mais ça, ce n'est pas de la connaissance. Pourquoi ? Parce que... Alors, donc, je ne vais pas donner une formalisation, mais l'intuition est assez simple. On va dire que vous n'avez rien appris. Si, pendant qu'on fait ce dialogue, on va écrire sur un bout de papier ce qui se passe. D'accord ? Alors, on écrit « enlever arête numéro 34 ». Vert, bleu. Enlever arête numéro 12. Bleu, rouge. D'accord ? On va écrire tout ça. Vous êtes d'accord ? Et à la fin, on va écrire « coloriable », avec probabilité 0,999999. Voilà. Si vous avez appris quelque chose, c'est écrit sur cette page. C'est évident, parce que ça décrit tout ce qui s'est passé. Alors, vous avez appris la fin. Ce graphe est coloriable. Ça, vous l'avez appris, c'est un bit. Je vous le donne, vous l'avez appris. Vous ne le saviez pas avant, maintenant, vous le savez, avec grande probabilité. Donc ça. Mais le reste, c'est du vent. Le reste ne rime à rien. Parce que, et c'est comme ça qu'on définit de façon formelle, vous pourriez produire cette page sans moi. Vous pouvez aller dans votre bureau et prendre des couleurs au hasard, et les écrire sur un bout de papier, tout seul, sans moi. Et ce que vous aurez, c'est une série de paires de couleurs qui ont la même distribution statistique que ce que vous avez sur le bout de papier qu'on a fait ensemble. Et on va dire que si vous savez générer une distribution probabiliste sans moi, vous n'avez rien appris, parce que vous pouvez le faire tout seul. D'accord ? Donc, c'est une définition d'absence de connaissances au niveau statistique, au niveau probabiliste. D'accord ? C'est équivalent à la chose suivante. Je prends une pièce de monnaie et ensemble, on fait pile ou face 100 fois. Pile, pile, face, face, et vous écrivez ça. Je vais vous dire, vous n'avez rien appris. Ben, si vous avez appris la série pile ou face, non, parce que vous pouvez aller chez vous faire ça aussi. Vous n'aurez pas la même série exactement, mais vous aurez statistiquement la même série. Et donc, ce n'est pas de la connaissance, ça, c'est simplement une distribution statistique que vous pouvez générer tout seul. D'accord ? Oui ?
Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas tricher et donner toujours deux couleurs différentes. Alors, vous allez me dire,
oui.
Moi, je vais dire, ah, ce sommet, il était rouge un coup, et puis la fois d'après, c'était...
Non, non, vous...
Vous allez me dire, vous pouvez changer la permutation.
Non, 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 si à un moment, moi, d'accord ? Si à un moment donné, moi, je mets rouge-rouge, d'accord ? Alors, vous avez une chance sur E de l'attraper, cette erreur. D'accord ? Vous êtes d'accord ? Si mon graphe, il a une erreur, il y a rouge-rouge, vous prenez une arête au hasard. Disons, il y a 100 arêtes. Vous avez une chance sur 100 de voir mon erreur. Vous êtes d'accord ? Vous avez une chance sur 100, puisque il y a 100, vous en prenez une au hasard, et hop, il y a rouge-rouge. Eh bien, si vous faites ça 1000 fois, une chance sur 100, vous le faites ça 1000 fois, il y a une très grande probabilité que vous m'attrapiez. D'accord ?
Pourquoi vous ne mettez pas rouge-bleu sur toutes les arêtes ?
Comment ?
Pourquoi vous ne faites pas rouge-bleu sur toutes les arêtes ?
Parce que si je mets rouge-bleu sur toutes les arêtes, il y aura rouge-rouge. Et vous l'attraperez. Ou alors, ça veut dire qu'il est bicolore. C'est encore mieux. D'accord ? Si le graphe, il a des triangles, d'accord, et que moi, je triche en ne mettant que rouge et bleu, d'accord, c'est ce que vous dites, vous allez m'attraper parce que si votre graphe a un triangle et que je mets que rouge et bleu, ça veut dire qu'il y a ou bien rouge-rouge ou bien bleu-bleu, forcément. Et donc, il y a une erreur. Et il y a une chance sur 100 que cette erreur, vous l'attrapiez. Comme ce triangle reste, ce triangle va être colorié avec deux couleurs à chaque fois. Eh bien, si c'est 1000 fois, la probabilité va être 1 sur 1 moins 100 à la puissance 1000. D'accord ?
Je pose la question. C'est quoi IJ ? Et vous, vous allez me dire, I, c'est couleur rouge, et J, c'est couleur bleue.
Oui ?
C'est pas ça.
Non, non, j'ai... Ah si, peut-être que Lia, vous touchez à un point important. Je crois que je vais répondre à cette question au truc suivant, d'accord ? Et puis, si je n'y réponds pas, ensuite, vous pouvez me redemander, d'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire de ne rien apprendre ? Bon, c'est, je crois que j'ai couvert ça. Ah, et là, je crois que je vais toucher à ce que vous dites. Ça veut dire quoi de cacher les couleurs ? Parce que si j'ai cru comprendre la question, je ne suis pas sûr, c'est est-ce que je ne peux pas tricher, en fait ? Cacher les couleurs, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire... Je prends le graphe, je le colorie, et je mets chaque sommet dans une enveloppe que je lèche et que je ferme. Il y a un sceau, d'accord ? Je prends ce graphe et je vous le donne à vous, d'accord ? Je vous le donne. Je n'y ai plus accès. Et quand vous dites IJ au hasard, c'est vous qui allez enlever le sceau à I, c'est vous qui allez enlever le sceau à J. Je ne peux plus tricher, moi, car c'est vous qui l'avez, d'accord ? Et donc, si j'ai fait une erreur, vous l'attraperez. C'est trop tard pour moi pour tricher, d'accord ? Et la question, mais c'est bien joli, mais comment on fait ça électroniquement ? On ne va pas lécher, on ne va pas mettre des sceaux dans les enveloppes. Comment on fait ça électroniquement ? Eh bien, on fait ça avec des fonctions à sens unique. Alors, par exemple, on fait ça avec RSA. Ce que je pourrais faire, c'est simplement crypter chaque couleur en utilisant l'algorithme de RSA, je vous le donne, c'est crypté, et ensuite, quand vous me demandez I et J, je vous donne la clé de décryptage. Vous prenez les deux clés de décryptage et vous regardez. D'accord ? Il y a d'autres moyens. D'accord ? Et là, on a fait ça pour le coloriage, mais comme le coloriage, c'est NP complet, on peut montrer que si on s'est caché de façon secrète comme ça, alors on peut faire ce genre de jeu pour toute la classe NP. D'accord ? Donc toute la classe NP a des preuves à divulgation nulle. Et l'hypothèse de travail, c'est qu'on puisse cacher, sans tricher. Et ça nécessite l'existence de fonctions à sens unique. J'en ai parlé un petit peu la dernière fois, je crois. Fonction à sens unique, c'est une fonction où c'est facile de calculer f de x, mais par contre de trouver la préimage d'un y, et ne peut pas être fait en temps exponentiel avec une probabilité meilleure que de faire au hasard. D'accord ? Donc, ne rentrons pas dans les détails. L'existence de fonctions à sens unique est ouverte. On ne sait pas si elles existent. RSA n'a pas de preuve que ce soit... Ça se trouve, RSA peut être cassé en temps polynomial. On ne sait pas. D'accord ? Si moi, je devais parier de l'argent, je parierais que RSA n'est pas sûr. Que RSA, sans doute, peut être cassé en temps polynomial. Ça, ça serait de la folie de mettre de l'argent, à mon avis, sur l'autre hypothèse. Mais ça n'empêche qu'il y a sûrement d'autres systèmes qu'on ne connaît pas encore qui sont sûrs et qui ont des fonctions à sens unique. D'accord ? Ça, c'est un des grands problèmes de la cryptographie. Bon, je vais... Alors, PCP, c'est très différent. Enfin, si, ça ressemble quand même... Il y a quand même un air de famille, mais la motivation est très différente. D'accord ? PCP, c'est... La motivation, c'est la suivante. Vous êtes sur le cloud computing, le nuage, et vous avez un long calcul très compliqué que vous voulez faire, mais c'est tellement gros, c'est tellement grand, il y a tellement de données, vous ne pouvez pas le faire vous-même sur votre laptop. Donc, vous avez payé un contrat pour qu'on le fasse sur que Yahoo, Amazon le fassent sur tous leurs serveurs. Et ils vous donnent la réponse. Et la réponse, c'est oui. Je ne sais pas si vous avez posé une question et la réponse, c'est oui ou non. Et la réponse qu'on vous donne, c'est oui. Vous aimeriez avoir une assurance que c'est la réalité, que ce n'est pas une erreur. Alors, PCP, c'est ça. C'est, est-ce qu'il y a un moyen très rapide, très très rapide, de vous convaincre que ce grand calcul très compliqué a été correct ? Ce qui était à ma leçon inaugurale, j'utilisais l'exemple qui n'est pas un exemple figuré, c'est un exemple littéral de l'hypothèse de Riemann. Si j'ai une preuve de l'hypothèse de Riemann, est-ce que je peux vous convaincre que j'ai cette preuve-là, et donc que l'hypothèse est vraie, en 10 secondes, en procédant de la façon suivante, vous piochez dans ma preuve 5-6 fois, vous prenez 5-6 lettres, vous les regardez, et sur la base de ça, et que de ça, vous concluez que j'ai raison, que j'ai tort. Est-ce que ça peut marcher ? Et la réponse, c'est oui, ça peut marcher, et tout ça, c'est PCP. Donc, la motivation est très différente. Dans la connaissance nulle, la divulgation nulle, c'est moi qui résiste, c'est moi le prouve. Vous voulez avoir la vérité, vous voulez savoir s'il est coloriable. C'est moi qui résiste. Je résiste à vos questions, je ne veux pas vous montrer les couleurs. Je veux vous donner le moins possible, de façon que vous connaissez, je veux quand même que vous soyez convaincus que le graphe est coloriable, mais je vais vous en donner le moins possible. Je ne veux pas que vous appreniez quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est la zero knowledge. Par contre, PCP, c'est l'inverse. PCP, c'est le contraire. C'est moi, le prouveur, qui essaie de vous convaincre. Mais c'est vous qui avez d'autres choses à faire. Ça vous emmerde, tout ça. C'est... Non, je n'aurais pas dû dire ça. Vous pouvez enlever de... vous avez des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Je vous supplie de m'écouter 10 secondes, 10 secondes de votre temps pour vous convaincre que je sais prouver un truc dingue, hein, un truc sensationnel. Donc, les tables sont complètement tournées, d'accord, hein. C'est moi maintenant qui essaie. Je suis prêt à tout vous donner. Je ne cache rien. Hein. Maintenant, vous voulez toute ma preuve, la voilà. Ça, d'accord. C'est vous qui faites de la résistance. Alors, répétons la définition de NP. Je vais définir PCP. La définition de NP, donc, c'est un langage, ou si un mot est dans le langage, eh bien, il existe une preuve qu'on peut vérifier en temps polynomial. Et sinon, il n'y a pas de preuve. Ça, c'est NP. D'accord ? PCP est assez similaire. Alors, PCP de log n 1, on verra le log n 1 plus tard, c'est un ensemble de langages. La condition de completeness, c'est que si le mot est dans le langage, eh bien, il existe une preuve qu'on peut vérifier en regardant un nombre constant de termes. Donc, par exemple, supposons que ma preuve de l'hypothèse de Riemann est correcte. Ça veut dire que donc, j'ai une preuve que vous pouvez vérifier en regardant un nombre constant, 5 ou 6 ou je ne sais pas quoi, de bits dans la preuve. Et, alors bon, vous verrez, ça paraît un peu curieux, mais Alors, vous, pour faire ça, vous utiliserez des bits aléatoires, pas plus que log n, et la probabilité sera 1. Donc, si ma preuve est correcte, vous l'accepterez toujours. Et vous aurez raison de l'accepter, car elle est correcte. D'accord ? Probabilité 1. Par contre, si ma preuve est fausse, alors vous la rejetez avec probabilité au moins 1,5. Alors, 1,5, ça va vous paraître pas génial, mais si, c'est génial, parce que vous pouvez répéter cette expérience 10 fois et vous en êtes à 1 sur 1000, 1 sur 1024. Vous pouvez la répéter 100 fois et vous, parce que vous comprenez que vous amplifiez cette probabilité de succès si vous répétez. D'accord ? Si ma preuve est correcte, vous allez toujours avoir oui, donc c'est bien. Si elle n'est pas correcte, eh bien, à chaque fois, vous avez une chance sur deux de m'attraper, vous répétez plusieurs fois et avec très grande probabilité, vous m'attraperez. D'accord ? Ça, c'est PCP. Log n, ça veut dire que le nombre de bits est log n. Ça veut dire aussi que la taille de la preuve va être polynomiale. Parce que si la preuve, j'ai droit qu'à un nombre log n de bits et je vais utiliser ces bits aléatoires pour avoir accès à la preuve, pour calculer des adresses. Mais si j'ai que log n, j'ai qu'un nombre polynomial d'adresses possibles que je peux calculer. Donc la preuve, elle n'a aucun sens qu'elle soit plus que polynomiale. En tant que si elle est plus que polynomiale, j'ai pas accès, vous n'avez pas accès à la plupart de ces bits, donc elle ne sert à rien. D'accord ? Donc le fait que ce soit log n random bits, ça implique que la preuve va être de taille polynomiale. D'accord ? Et donc, le grand résultat, c'est que NP est égal à PCP de log n 1. Donc, je rappelle, log n, c'est le nombre de bits, c'est-à-dire la taille de la preuve est polynomiale en n. 2 puissance grand O de log n, c'est polynomiale en n. Et 1, ça signifie que le nombre de bits que vous allez regarder dans la preuve est constant. D'accord ? Et vous allez vous assurer que la preuve est... Ça, c'est extrêmement contre-intuitif. Hein ? Qu'on puisse vérifier une preuve de Riemann en regardant 5-6 mots pris au hasard, c'est quand même assez étonnant. Alors, bon, j'ai 10 minutes pour vous raconter une preuve qui prend plusieurs mois, donc ça va être un peu impressionniste, mais je vais essayer quand même de dire quelque chose qui ne soit pas à connaissance nulle. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un système d'équations quadratiques, ça ce sont des variables, on a un système d'équations de degré 2, c'est des polynômes de degré 2, on a n, et tout ça on fait ça modulo 2, on fait ça sur un corps, d'accord ? Ça c'est très difficile à résoudre comme problème, on ne sait pas résoudre, en fait c'est NP complet de résoudre ça, d'accord ? Donc, si vous avez résoudre ce système d'équations, vous savez colorier, vous savez plier les protéines, vous savez casser RSA et tout ça. D'accord ? Et donc, supposons que j'ai que la réponse est oui, il y a une solution, je la connais et je veux vous convaincre qu'elle existe. Mais je ne peux pas vous la donner entièrement, c'est trop long, vous n'avez pas vérifié tout ça, c'est beaucoup trop long. D'accord ? Comment je fais ? Alors, avant que je dise comment je fais, je veux quand même souligner un point important. Dans le monde de l'informatique théorique, PCP a deux sens. Un sens philosophique et un sens plus d'approximation, dont Claire Mathieu parlera plus tard. Le premier sens, c'est ce que je vous dis, c'est assez au niveau de l'épistémologie, c'est quand même extrêmement surprenant qu'on puisse vérifier une connaissance arbitrairement compliquée, une justification arbitrairement compliquée en temps constant. Ça semble assez curieux, d'accord ? Et l'autre, qui est équivalente, mais qui est quand même qui semble très différente, c'est la suivante. Voici une autre formulation de PCP qui est équivalente et qui dit la suivante. Si vous avez un système d'équations comme ça, vous pouvez écrire un compilateur qui, en temps polynomial, va traduire ce système en un système équivalent. Il y a des V maintenant au lieu de U. C'est un système quadratique, mode 2, et qui est équivalent. L'un 1 marche si et ça. Sauf que ici, toutes les équations sont ou bien satisfaites, ou bien il y a une réponse, ou bien vous pouvez satisfaire au plus une fraction fixe. Ça évoque le problème suivant. Vous avez un système d'équations. Ou bien il est résoluble, auquel cas il y a une solution qui marche et toutes les équations marchent, ou bien il y a des problèmes. Question. Il y a des problèmes à cause d'une équation, deux ou tous, ou la moitié. Hein ? Eh bien, on peut... il y a un compilateur qui transforme n'importe quel système d'équations en un autre où, quand ça ne marche pas, ça ne marche vraiment pas. Si ce système n'est pas soluble, eh bien, vous pouvez satisfaire au plus 90% des équations. Jamais plus que ça. Il y a toujours 10% qui va coincer. Ce n'est pas évident, ça. Hein ? Eh bien, ça, il y a un compilateur en temps polynomial qui fait ça. Ce résultat est équivalent à PCP. Et donc, toute la théorie de l'approximation s'est vue complètement changer à cause de ça. D'accord ? Mais revenons à la preuve de PCP originale. Une petite digression. Je vous donne n points dans l'espace. Je veux vous convaincre qu'ils sont coplanaires. Je vous donne un milliard de points dans l'espace, à trois dimensions. Je veux vous convaincre qu'ils sont coplanaires. Comment je peux faire ça très rapidement ? Voici les points, et voici le plan. Donc il y a une équation, comme ça, ils passent tous par ce point. La preuve traditionnelle, c'est de vous donner ABC. Je vous donne ABC, et puis ensuite, ensuite vous vous débrouillez. Ça, c'est la preuve traditionnelle. Ce n'est pas une preuve PCP pour la raison suivante. Bien que je dise c'est à trois dimensions, supposons qu'on est en dimension 1 milliard. C'est très difficile de dessiner une dimension 1 milliard qui soit différente de dimension 3. Et ben, donc ça, c'est dimension 1 milliard. Donc les ABC, il y en a 1 milliard. La preuve, elle a une taille de 1 milliard. La preuve de PCP doit avoir une taille constante. Alors, est-ce qu'on peut vous convaincre que ces milliards de points, il y a un plan, enfin un hyperplan, en dimension 1 milliard, hein, donc l'hyperplan à dimension 1 milliard moins 1, et qui passe par tous ces points-là. D'accord ? Donc cette solution ne marche pas, d'accord ? Parce qu'il y a 1 milliard. Ce n'est pas dans PCP en haute dimension. Je veux vous faire du lavage de cerveau peut-être, pour essayer de voir comment on peut se débrouiller, comment je peux me débrouiller pour vous convaincre que ces milliards de points en dimension, il faut, disons, 2 milliards, parce que 1 milliard, 1 milliard, si la dimension est assez grande, il y a toujours un plan qui passe, mais disons 2 milliards, hein, 2 milliards de points en dimension 1 milliard. Je vais vous convaincre que vous pouvez très rapidement vous assurer de cela. D'accord ? Et la réponse ne peut pas être ben, voici les coefficients, voici le milliard de coefficients. Débrouillez-vous. Alors voici ma preuve. À chaque fois que vous... Bon, là, je reviens au langage à trois dimensions, mais souvenez-vous, on est en dimension 1 milliard. D'accord ? Mais revenons à trois dimensions, c'est plus facile de s'exprimer. Ma preuve, ça va être la chose suivante. C'est une preuve, en fait, infinie, très longue. Et quand vous regardez à l'endroit XY, donc cette preuve-là, quand vous regardez à l'adresse XY, eh bien, ce que vous trouvez, c'est Z. Vous trouvez AX plus BY plus C. Donc ça, c'est la preuve de ABC. D'accord ? C'est ce que vous trouvez. Vous trouvez donc un seul chiffre. Un seul chiffre. D'accord ? Il y en a un milliard des coefficients. Mais ce qui sort, c'est un seul chiffre. Donc ça va, ça c'est convenable. Donc vous pouvez regarder cette preuve 5 ou 6 fois, ça c'est correct, même 10 fois. Ça c'est admissible dans le langage PCP, d'accord ? Alors pourquoi ça marche ça ? Pourquoi ça c'est une preuve PCP ? Voilà. Alors, on va distinguer deux choses. Je vous dis que ces points sont coplanaires. Ou bien je me trompe un peu. D'abord, si je ne me trompe pas, ça c'est le cas facile. Vous n'allez jamais voir de problème, vous allez dire oui, et vous aurez raison. Le seul cas intéressant, c'est si je me trompe ou si je triche. C'est le seul cas intéressant. Donc supposons que je triche. J'ai deux façons de tricher. Je peux tricher un petit peu ou énormément. Supposons que je triche énormément. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a une espèce de surface bizarroïde qui passe par ces points-là, mais elle n'a rien d'un plan. Là, elle n'a rien du tout d'un plan. Alors, ce que vous allez faire, c'est la chose suivante. Vous allez prendre des x, y au hasard, et vous allez prendre x, y au hasard, x prime, y prime au hasard, et vous allez prendre le point du milieu. Et vous allez vous demander si le point du milieu, il est sur la surface, en me demandant de sortir le z du point du milieu. D'accord ? C'est ça. Donc, là, vous faites donc trois requêtes pour avoir le z de x, y, le z prime de x prime, y prime, et le z correspondant à ce point-là. Donc, trois requêtes uniquement. Pas 3 milliards, hein, 3. Car une droite, ça a une dimension 1, même en dimension 1 milliard, toujours dimension 1. Donc, 3 requêtes, et vous assurez que le point du milieu, il est véritablement sur la surface. Alors, il y a un théorème qu'on peut prouver qui dit que si vous répétez ce petit test-là 10 fois, 20 fois, et que ça passe toujours, que ça marche toujours, alors il y a un théorème qui dit que vous avez presque un plan. D'accord ? Il y a un théorème qui dit, et ça, c'est, il faut utiliser des arguments de transformée de Fourier pour prouver ça, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas complètement évident, que si vous passez ce test-là, donc vous me posez ces questions, et à chaque fois, le point du milieu, il est sur la surface, votre surface, elle est quasiment planaire. Donc, elle ressemble à un plan avec quelques petites bumps, des petites bosses, d'accord ? Mais très peu des bosses. Hein ? Formellement, on dit qu'on peut transformer cette surface en un plan idéal, en un plan parfait, en modifiant qu'une fraction 1% de ce que vous avez, de la surface. D'accord ? On peut formaliser tout ça. Enfin, je crois que l'intuition est assez simple. Vous avez une surface tout à fait ondulée. Si vous prenez des segments au hasard et vous prenez le point du milieu, eh ben, ça serait miraculeux qu'à chaque fois, le point du milieu il soit sur la surface, ce qui est la caractéristique d'un plan. Si c'est ondulé, à un moment, ça va rater. Si ça ne rate pas, si vous faites ça 100 fois de suite et qu'à chaque fois, le point du milieu il est strictement sur la surface, c'est-à-dire que votre surface elle est quasiment plein air, sauf des petits machins qui peut-être vous avez ratés. Donc, vous avez ça. Ça ne veut pas dire que la preuve est correcte. Hein. Une preuve correcte doit être entièrement planaire. Là, elle ne l'est pas. Alors, une surface qui est presque planaire, mais qui ne l'est pas, on peut la considérer comme étant parfaitement planaire. Ça, c'est la deuxième étape très importante. On peut supposer que c'est un véritable plan. Pourquoi ? Eh bien, il y a un moyen d'éliminer toutes ces bosses. D'accord ? Comment ? Si vous voulez savoir où se trouve, vous voulez évaluer votre fonction sur ce plan, d'accord ? Et vous ne savez pas où ça va tomber. Ça va peut-être tomber sur une bosse. Vous voulez évaluer ça et peut-être que ça tombe sur une bosse, d'accord ? Ce que vous faites, c'est que vous faites une interpolation le long du. Vous prenez une ligne aléatoire en prenant deux points aléatoires. Les deux points aléatoires ont une forte chance de tomber sur la partie planaire de votre surface, deux points aléatoires. Votre surface est quasiment partout planaire, sauf à quelques endroits. Vous prenez deux points au hasard, il y a une grande chance que les deux soient sur la surface planaire. Et donc, si vous assurez que cette droite passe par le point que vous voulez évaluer, au lieu d'évaluer le point ici, vous allez prendre un endroit, vous allez prendre un point aléatoire le long de ce segment. Et avec grande probabilité, ce point-là va être dans la partie planaire du graphe. Ça vous permet ensuite, par interpolation, d'avoir la valeur, pas celle-là, mais celle qui serait juste en bas sur la partie planaire. C'est une correction de code. En fait, c'est ce qu'on appelle des codes localement décodables. On fait du décodage de code, d'erreur, ici, de façon locale. D'accord ? Donc, ça nous permet ensuite de supposer, pour toujours, qu'en fait, on a un plan parfaitement planaire. Alors que peut-être qu'il ne l'est pas. Mais en faisant des coups d'interpolation aléatoires, on va en fait se mettre dans le cas de figure où il est absolument planaire. On peut prétendre qu'il est planaire. Maintenant, la seule question, c'est est-ce que ce plan passe par tous les points? C'est bien joli d'avoir un plan, mais est-ce qu'il passe par tous les points? Et des points, il y en a des milliards. Alors comment vous allez, en cinq coups de cuillère à peau, vous assurer que ce plan passe par tous les points? Ça semble compliqué, ça. Non, ça ne l'est pas. Voilà ce que vous allez faire. Imaginez que vous avez des espèces de ressorts aléatoires attachés à tous vos points. Il y en a un milliard de points. Il y en a, j'ai même plus que 2 milliards, j'ai dit. 2 milliards de points. Il y a 2 milliards de points. Vous construisez un point aléatoire qui est attaché à tous les autres par des ressorts. Et les ressorts ont une force aléatoire aussi. Donc ce point est dans l'enveloppe convexe, mais de façon... C'est une représentation barycentrique, mais qui est aléatoire. D'accord ? Et voilà quelque chose de fantastique, c'est que, c'est ce qu'on appelle la projection aléatoire, c'est que si les points rouges ne sont pas strictement sur le plan, eh bien ce point-là a une probabilité assez forte de ne pas être sur le plan lui-même. Pensez-y un peu. Vous avez 1 milliard de points et vous prenez un truc barycentrique au milieu, une espèce de ressort. Si vos points sont planaires, sont sur un plan, ben bien sûr, le milieu du ressort, enfin ce point bleu, va être sur le plan. Ça, c'est clair. Mais si, par contre, ils ne le sont pas, ça veut dire qu'ils ils engendrent un espace de dimension totale, de dimension complète. Donc, quand vous prenez ce point aléatoire, il a une forte chance de ne plus être dans le plan. Même s'il n'y a qu'un seul rouge qui ne marche pas. Et c'est là qu'on voit l'erreur, qu'on voit l'idée absolument simple, mais géniale. Ces points rouges, ce sont les lignes de code de votre preuve. S'il y a une seule ligne qui est fausse, toutes les autres sont bonnes. Une seule ligne fausse, ça veut dire que ce point-là n'est pas sur le plan. Ça veut dire ça d'être faux. 2 plus 2 égale 5, ça veut dire que ce point-là n'est pas sur le plan. Tous les autres y sont. Alors, comment vous en assurez? Eh bien, si vous prenez un truc aléatoire barycentrique, ce point-là tout seul va créer des ennuis. D'accord? Alors, vous allez dire, mais attention, je suis forcé de regarder tous les points, donc ça va me prendre un temps fou. Ah, attention, je n'ai pas dit que de vérifier ma preuve va... Si, peut-être que je l'ai dit, mais c'est... j'ai voulu dire, c'est que vous n'allez consulter ma preuve qu'en 5 ou 6 endroits. Ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, de former cette construction barycentrique, vous pouvez faire ça sans moi. Les points rouges, vous les connaissez. Les points rouges, vous les connaissez. D'accord ? Vous pouvez faire ça sans moi. Vous n'avez pas besoin de moi pour trouver ça. Et donc, vous faites cette construction barycentrique, parce que souvenez-vous du problème sur lequel on est démarré, Le problème, c'était le suivant. Vous avez des points rouges. C'est vous qui avez des points rouges. Vous me demandez, moi, si j'ai un plan qui passe. Et je vous dis, oui, j'ai un plan qui passe par eux. Ma preuve, c'est le plan. Ce n'est pas les points rouges. Les points rouges, vous les avez, vous. Donc, cette construction barycentrique, vous pouvez la faire sans moi. C'est uniquement quand vous allez poser la question « Mais est-ce que ce point bleu est sur le plan ?» que vous me demandez. Vous allez voir ma preuve pour voir si ce point bleu est sur le plan. Et vous allez voir, oui, il l'est. Voilà. Une requête. Vous allez répéter 10 ou 20 fois, si ça vous fait plaisir, pour assurer ça. D'accord ? Et donc, l'idée là, c'est que vous faites ce calcul-là, mais c'est quand même un calcul polynomial de votre part, parce que c'est... reprenons. Oui, je reviendrai à ça. J'ai encore quelques minutes. Donc je reviendrai à ça. Mais je vais finir ça. Quel est le rapport entre ce système d'équations et ce plan qui passe par des points et tout? Eh bien, ce système d'équations comme ça, on peut le réécrire. Hein, on peut une construction tensorielle assez élémentaire en algèbre, où on va introduire des variables V qui vont être simplement le produit tensoriel entre ces vecteurs. Donc on va V1, V2, V3. Donc on va écrire ça comme un système linéaire. C'est un système linéaire. Et les V, c'est un produit tensoriel de vecteurs. D'accord ? Donc ça, c'est l'aspect quadratique. Mais ça, c'est une question, on peut réécrire ça comme ça. Et ça, la question, c'est, on a des points, et la preuve, c'est ça. Y a-t-il un plan qui passe par ces points-là ? Et moi, c'est ça, ce que j'ai, c'est la preuve. Bon, il faut aussi se préoccuper de ça, et je ne dis pas que c'est trivial, c'est pour ça que la preuve PCB n'est pas si simple que ça, il y a aussi l'aspect non linéaire. Bon, en fait, ça ne va pas être un plan, ça va être une surface, une variété algébrique, en fait, d'accord, de degré faible. Mais bon, sans rentrer dans ces détails-là. Donc, on en arrive ici au fait que cette preuve-là, j'ai dit qu'elle était infinie parce qu'on est sur les réels et donc il va falloir pouvoir répondre à toute question x, y, z égale ax plus b, y, z, pour toute x, y, donc la preuve est infinie. Mais si on fait ça sur un corps fini, ça rend la preuve finie. Et on voit facilement que ça rend la preuve de taille exponentielle. Donc c'est une preuve de taille exponentielle, mais où il vous suffit de la consulter en un nombre constant d'endroits, mais comme elle est de taille exponentielle, vous avez besoin de nombres aléatoires de plus que log n. Vous avez besoin d'un nombre polynomial simplement pour avoir accédé aux adresses. Les adresses d'une preuve exponentielle sont polynomiales, de taille polynomiale. Donc la question ensuite, c'est de savoir comment on réduit ce poly n, ce polynôme en n, en log n. Alors, la façon, c'est de changer. Là, on est dans un corps, un petit corps, hein, de caractéristiques. Ici, de caractéristiques 2, c'est bon. Mais on va faire ça dans des corps plus élevés. Donc, ça, c'est ce qu'on fait en théorie des correcteurs de codes. On peut prendre des codes BCH, des codes linéaires assez classiques, où on s'amuse avec ce genre de choses pour changer la caractéristique du corps. Et on arrive à un truc où là, c'est un peu l'inverse. Le nombre d'endroits de requêtes devient polylogue. Mais par contre, là, on a une taille polynomiale. Et ensuite, on met les deux trucs ensemble pour produire le résultat final. Sa dernière étape est la plus jolie, à mon avis, parce que c'est là que l'informatique vraiment se détache des mathématiques classiques. Pourquoi ? Tout ça, un peu, on peut dire, c'est des constructions de théorie des codes relativement classiques. Mais là, ce n'est pas du tout, parce qu'on utilise ce qu'on appelle l'autoréductibilité, où on regarde la façon dont on fait tous ces codes et tout, et on réinterprète la preuve PCP elle-même, ce que je vous ai raconté, comme une preuve qu'elle-même, on va réécrire en PCP de façon récursive. Ça, c'est un truc quand même qu'on fait rarement en mathématiques, où on prend la preuve d'un théorème, on prend la preuve elle-même, et on l'interprète comme un autre théorème qu'on va prouver encore. Je ne peux pas vous donner les détails ici, mais c'est une étape profondément informatique, hein, ou peut-être en logique aussi, on trouve ça, mais sûrement pas en algèbre. Et c'est le théorème final, donc j'arrive à la fin, mais je voulais quand même conclure en revenant là-dessus. L'hypothèse de Riemann, hein, je dis ça que si je connais la preuve de l'hypothèse de Riemann, je peux vous convaincre que ma preuve est correcte en vous laissant piocher dans cette preuve 5 ou 6 fois, 10 fois. Alors, la preuve, c'est quoi ? Les points rouges, tout ça, c'est quoi ? J'ai dit que les points rouges, c'est vous qui les avez. Non, les points rouges, ce n'est pas la preuve de l'hypothèse de Riemann. D'accord ? La preuve de l'hypothèse de Riemann, c'est le plan. C'est ce plan vert. Ça, c'est ma preuve. D'accord ? Les points rouges, c'est quoi ? Les points rouges, c'est les contraintes que vous connaissez. Je vais vous montrer une preuve. Vous voulez, par exemple, que cette preuve doit prouver Riemann, pas prouver Poincaré ou ABC ou n'importe où, au terme de Pythagore. Il doit prouver l'hypothèse de Riemann. Donc, il y a des contraintes à cette preuve. Mais vous les connaissez, ces contraintes-là. Vous savez écrire, vous savez formuler l'hypothèse de Riemann. Et donc, tous ces points rouges-là, ce sont les contraintes que cette preuve doit être celle de Riemann et pas celle d'autre chose. Et puis aussi, ce sont les contraintes logiques. D'accord ? Les contraintes logiques, le calcul doit être correct. D'accord ? Il y a des contraintes logiques, si c'est booléen par exemple, hein, bon, il y a des règles, les règles booléennes et tout. Et tous ces points rouges, ce sont les garde-fous que vous, vous connaissez, qui sont indépendants de la preuve. D'accord ? Et donc vous avez tout ça, ce sont vos garde-fous. Et vous savez que si la preuve de Riemann, si j'ai une preuve de Riemann qui est vraie, si et seulement si il y a un plan qui passe par tout ça. Le seul point qui est laissé en suspens, c'est la taille de la preuve. Je dois vous donner la taille de la preuve. Je dois vous dire, ma preuve fait 3 milliards de lignes de code. D'accord ? Vous avez besoin d'avoir cette information-là, parce qu'ensuite, c'est ce qui vous permet de choisir ces points rouges. Parce que vous devez préparer... Les points rouges, grosso modo, et l'intuition, c'est la suivante, et ça sera la fin de mon exposé. Supposons que la preuve, elle soit entièrement automatisée, en utilisant, par exemple, les travaux de Gontier et tout ça. Donc, on a une preuve complètement automatique. Ça veut dire quoi, une preuve automatique ? Ça veut dire qu'il y a un ordinateur qui, à un moment donné, on presse le bouton, crac, et l'ordinateur, il fait des trucs. D'accord ? Et puis, il dit oui. Il n'y a pas de doute. En amont, il y a tout ce travail de modélisation, des types, et tout ça, très extrêmement compliqué. Mais on a, à la fin du compte, il y a une machine de Turing. On pousse le bouton, et puis elle fait des petits calculs bébêtes. D'accord ? Et puis ça sort la réponse oui. Ces points rouges, c'est que la machine de Turing ne triche pas. Que cette machine de Turing doit être absolument correcte. Elle ne peut pas faire, elle peut pas sauter d'un machin à un autre et puis changer de façon aléatoire les bits comme ça. D'accord ? C'est le garde-fou de la machine de Turing qui, en fin du compte, va vérifier de bit en bit. Parce qu'un ordinateur ne connaît que les bits. Hein, et donc, vous pouvez avoir tous les types que vous voulez. En fin du compte, il y a des transistors, il y a des potentiels de charge électrique, il y a des bits qui passent de 1 à 0, point final. Le PCB se situe à ce niveau-là. Donc, en ce sens-là, c'est extrêmement universel, parce que c'est incontournable. Mais en pratique, ça pose de gros problèmes, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait des preuves. Alors, en machine de Turing, qui font des 1 et des 0, il faut des types, il faut une modélisation extrêmement fine, extrêmement complexe. Et ça, à mon avis, c'est un grand problème ouvert pour la pratique, pour, par exemple, faire le cloud computing et s'assurer que les trucs, c'est d'avoir une théorie du PCP qui ne soit pas au niveau de la machine de Turing, mais qui soit à un niveau de type beaucoup plus avancé, beaucoup plus sophistiqué. Ça serait un projet sensationnel. Mais enfin, là, il faut que je finisse. Hein, et donc, je vais avec grand plaisir laisser la parole à Claire Mathieu, qui est professeure à l'École normale supérieure, à la rue d'Ulm, et puis aussi à Brown University, qui a dû parler des approximations. Merci.